Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour une nouvelle Step Story, je suis avec Grégoire Gambato, CEO et fondateur de Germinal. Salut Grégoire.
Salut.
Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on commence le podcast et que tu te présentes un petit peu, est-ce que tu peux revenir sur Germinal et m'expliquer, nous expliquer ce qu'est et ce que vous faites avec Germinal en 10 secondes?
Avec Germinal, pour être très rapide, on fait de l'acquisition client, du test où vraiment on a un projet qui n'est pas encore conçu, on va aller tester un produit qui n'existe pas encore, jusqu'au lancement d'un produit qui existe vraiment et jusqu'au scale, c'est-à-dire au passage à l'échelle dans plusieurs pays avec des millions d'euros de budget dépensés. Donc voilà, nous on couvre vraiment toute cette étape-là avec une méthodologie bien particulière.
Ok, est-ce qu'en deux mots on peut dire que en fait vous faites du growth hacking? C'est carrément ça?
Alors on peut dire qu'on fait du growth hacking, mais pas seulement, c'est-à-dire que le growth hacking, on aura sans doute l'occasion d'en parler, c'est une façon de faire du growth, c'est une façon de faire de la croissance et on ne fait pas que ça. Mais oui, au départ, c'était vraiment notre cœur de métier et on s'est petit à petit diversifié. On a fait évoluer la méthode et aujourd'hui, c'est une partie de ce qu'on fait, mais pas seulement. Voilà.
Ok, écoute, on va avoir l'occasion d'en parler. Première partie, moi, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, ce que tu as pu faire professionnellement, si c'est ta première boîte ou pas, raconte-moi tout.
Moi, j'ai un parcours assez atypique. Hein. Je me suis lancé en 2015, c'est la première fois que j'ai essayé de monter une boîte. En fait, moi, j'ai un master en droit des affaires à la base, donc en fiscalité, donc ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai commencé à monter, à planter des boîtes avant même d'être diplômé, donc j'appelle ça même des projets, parce que j'ai un peu honte de dire une boîte quand on voit où on en était. Mais même si on remonte tout à l'origine, en fait, j'ai commencé c'est important, je pense qu'on parle de mes expériences. Mon projet le plus rentable, ça a été très longtemps le fait d'acheter des cartes Magic à Grenoble, là où j'habite, et les revendre à Vif, dans mon village, avec une marge. Parce qu'en fait, okay, le bureau de tabac à côté prenait une marge démentielle. Et pendant très longtemps, en fait, ça a été mon projet le plus rentable. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire, j'ai fait 500 euros de chiffre d'affaires et une cinquantaine d'euros de marge, alors que j'étais en quatrième.
Les débuts ensuite, dans le business, quoi.
Pardon?
Les débuts dans le business, en fait.
Oui, exactement, les débuts dans le business, et il faut savoir que voilà, ça a été pendant très longtemps mon plus beau projet. Après, j'ai lancé un premier projet, où on va passer très vite, c'est un site de rencontre entre entrepreneurs, en fait, pour que les entrepreneurs puissent se rencontrer pour monter des boîtes, mais qui n'est jamais vraiment sorti. Mon premier vrai projet, ça a été une application pour se lancer des défis entre amis. J'ai lancé ça, on a été jusqu'à 12 dans la boîte, mais on était associés, en fait, personne n'était payé, la structure n'était pas encore créée, mais en gros, on avait des promesses que quand on créerait la boîte, les gens auraient des parts, etc. C'était
okay, un peu à 12.
Ma sortie. Ouais, à 12, c'est particulier. Ça a été un petit peu ma sortie de... Comment dire, c'est un peu le moment où je me suis rendu compte que j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. C'est vraiment à ce moment-là.
Okay.
Et donc, on s'est lancé. En fait, cette appli, elle est sortie, mais en fait, on n'a jamais eu de succès. Il ne s'est jamais vraiment rien passé. Le projet est presque mort-né, en fait, parce que c'est vraiment l'illustration de... Voilà ce qui se passe quand on lance un projet et qu'on s'enferme avec des développeurs et qu'on le met en place et que le produit ne répond à aucun besoin. Ça, ça a vraiment été mon premier projet. Après, j'ai eu un deuxième projet. Et du coup, là où ensuite, j'ai rencontré Marc Alex, en fait, qui montait Chips. En fait, c'était un site de e-commerce participatif. Ils avaient déjà un site de e-commerce. Ils avaient déjà du chiffre d'affaires. Donc, moi, c'était hyper excitant. Je venais d'un projet qui était quasiment mort-né. On avait énormément travaillé. On était resté un petit peu enfermé. Et donc là, je me suis confronté au client. Et là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait du growth hacking. Mais moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, j'avais fait des fausses offres d'emploi pour générer du trafic sur le site, pour arriver à trouver des partenaires. D'ailleurs, ça marchait hyper bien. On faisait des offres hyper fun avec un ton hyper décalé. Ça marchait extrêmement bien. On récupérait des adresses email de contact Facebook via un hack avec Yahoo Mail de l'époque. On faisait pas mal de choses. On faisait du scrapping sur LinkedIn, etc. On faisait des bots. Et ça marchait pas très bien parce qu'en fait, il me manquait des notions fondamentales. Mais ça marchait pas très bien. Mais c'est la première fois que quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ah, tu fais du growth hacking ». Et comme je disais à l'instant, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai tapé la recherche sur la net. Et là, je suis tombé sur les vidéos de The Family à l'époque. Et j'ai commencé à toutes les regarder. Je me suis retrouvé à 6h du matin en train de regarder des vidéos de The Family là-dessus. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est incroyable. Donc Chips, ensuite, ça s'est arrêté. Enfin, je suis parti de Chips. Parce que avec Marc et Alex, moi, on n'avait pas exactement les mêmes objectifs. D'ailleurs, j'ai remercié encore de m'avoir accepté dans le projet à ce moment-là. Et là, je suis parti bosser dans un espace de coworking. Et en fait, donc là, j'ai fini mon Master 2. Donc, il faut savoir que ces deux premiers projets, c'était pendant Master 1 et pendant Master 2.
C'était des side projects un peu, quoi. Ok.
Et oui, exactement. Donc, j'étais encore pendant mes études. Et là, on me dit... Il y a Mathieu Gentil qui me propose, le mec qui gère le coworking Grenoble, le plus gros espace de coworking de Grenoble, dit, est-ce que tu veux travailler pour Cowork et générer des nouvelles sources de revenus? Et je me suis dit, ça va être incroyable et tout. J'avais payé pour faire ce que je faisais, parce que ça faisait quand même 2 ans que je me payais pas. Bon, c'était pendant mes études, mais c'était compliqué quand même. Je me payais pas, je devais bosser. Enfin, je bossais sur ma boîte, j'essayais de passer mes examens en même temps, etc. C'était pas forcément facile. Et là, je me suis retrouvé dans un espèce de coworking. Il y avait une communauté, il y avait de la présence sur les réseaux, il y avait une newsletter. Enfin, j'avais des effets de levier, donc c'était assez incroyable. Et là, bah, j'ai monté des formations en growth hacking, du coup. Ça a marché très bien. On a fait plus de 6 saisons. On a formé 105 personnes en physique à Grenoble. Donc, c'est énorme pour Grenoble. Donc, c'était vraiment ouf. On m'a proposé d'écrire un bouquin sur le sujet. Donc, bah, du coup, j'ai écrit le growth hacking aux éditions du Nord avec Frédéric Canvet, qui m'avait proposé, qui est mon co-auteur. D'ailleurs, bouquin qu'on réédite là actuellement. Dans 3 mois, il va ressortir. Là, on a fini la réédition. On l'a tout remis à jour, etc. Ce qui s'est très bien vendu. Donc, merci aussi à tous les gens qui ont acheté le livre. Et ensuite, j'ai lancé un accélérateur de start-up où là, on a fait 2 batchs de 3 mois. En gros, le but, c'était d'accélérer des boîtes B2C à Grenoble pour les aider à aller trouver leur adéquation pour des marchés, les aider à décoller. Et là, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu lancer ma propre boîte. Et là, il s'est avéré que ça ne fitait pas exactement avec ce que voulait faire Mathieu dans son espace de coworking, etc. Enfin, du coup, il m'a dit « Ok, bah, vas-y, pars ». Et je dis « Ok, bah, c'est parti, je vais essayer de lancer ça ». Et en fait, il me disait à l'époque que le projet n'était pas viable en tant que tel, et il avait raison, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, mais au lieu, il y a des boîtes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, ouais, Grégoire, est-ce que tu veux pas nous aider à nous coacher, en fait, ce que tu faisais pour les startups dans l'accélérateur, et qu'aujourd'hui, tu veux faire en les en payer, est-ce que tu veux pas faire ça en prestation de service pour nous, quoi? Est-ce que tu veux pas faire du growth hacking en prestation de service pour nous? Et du coup, cette méthodologie que j'avais développée dans l'accélérateur, où en fait, je voyais les boîtes toutes les semaines, et toutes les semaines, je leur demandais de faire des tests pour arriver à trouver leur adéquation de produit marché à décoller. Je me suis mis à le faire en presta pour quelques boîtes. Et ça a bien fonctionné. Et j'ai signé un client plus gros que les autres. On en parlera tout à l'heure. Et là, j'ai besoin d'aide. Et j'ai appelé un mec qui s'appelait Benjamin, qui est devenu mon cofondateur, qui m'a recommandé à un autre mec qui s'appelait Paco, qui est devenu mon autre cofondateur.
Okay.
On a monté Germinal. Voilà, on s'est rencontrés en juillet 2017. En septembre 2017, on s'est dit, allez, on se donne 3 mois pour réussir, parce qu'au début, on s'est juste rencontrés, on ne voulait pas du tout monter une boîte ensemble.
Okay.
On s'est dit, on se donne 3 mois pour lancer la boîte. Décembre 2017, on se dit, allez, qu'on lance la boîte. Mars, on a immatriculé. Donc là, ça va bientôt faire 2 ans. Et là, on est, ce mois-ci, on est 28 salariés. Et on bosse avec une dizaine de boîtes du CAC 40 et énormément de très belles startups comme Frishti, CityScoot. On a bossé un peu avec Payfit, on a beaucoup bossé avec Ornicar, avec Even First, etc. Donc,
écoute, tu vas me donner les clients tout à l'heure. Je vais juste faire du coup une petite, un petit résumé de ton parcours. Alors du coup, toi, tu as découvert l'entrepreneuriat pendant tes études. Tu as été le gars qui a fait une boîte, tu ne savais même pas à quel besoin tu répondais. Tu as fait un produit, tu ne savais même pas s'il allait fitter avec le marché. Mais tu étais dans cette bulle d'entrepreneuriat, etc. Et c'est là où tu as commencé à découvrir. Après, tu es tombé dans le gros hacking sans même le savoir. Et une fois que tu avais vraiment une méthodologie et un truc qui créait de la valeur, c'est là où tu as tilté que tu pouvais en faire ton métier en fait.
Exactement.
Et en même temps, t'as rencontré tes associés, etc. Super synthèse de parcours que tu nous as fait là. Maintenant, écoute, je vais te laisser me présenter Germinal. Donc, on a compris, tu fais du gros hacking. Maintenant, tu vas me dire un petit peu plus en détail ce que tu fais pour les boîtes. Concrètement, on va parler des offres, hein, des 3 offres que vous avez après. Mais voilà. Donc, comment l'idée est venue, on le sait. Maintenant, tu vas me dire ce que tu fais avec Germinal. Comment vous vous êtes lancé avec les différentes leçons des petits fails que tu as fait avant? Comment vous êtes lancé, l'attraction que vous avez au début? Puis après, on parle des offres et des gros clients que vous avez maintenant.
D'accord. Donc, tu commences à te présenter ce qu'on fait avec Germinal.
Carrément.
Ok. Alors, en gros, Germinal, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, nous, on fait des missions commando dans l'acquisition client. Donc, en fait, le but, ça va être de faire des missions commando qui vont conduire entre 4 et 8 semaines. Parfois 10 dans certains cas, mais dans la plupart des cas, entre 4 et 8 semaines, où le but, ça va être de tester 3 choses. Des canaux d'acquisition, donc Facebook Ads, envoi d'email, publicité sur LinkedIn, micro-influence dans certains cas, ajout automatisé, etc. Enfin, tous les moyens d'aller chercher des clients, tous les canaux d'acquisition auxquels on peut penser. Alors, il y en a plein qu'aujourd'hui, qu'on n'exploite pas, mais à terme, on les exploitera. Et voilà, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais qu'on fera demain.
Okay.
Deuxième chose, on teste des audiences. Donc, on va tester vraiment des différents types de cibles, différents types d'audiences. Et la troisième chose qu'on fait, c'est des propositions de valeur. Et ça va se voir dans les pages de vente, donc dans les landing pages, dans les pubs ou dans les emails. C'est comment est-ce qu'on présente le produit. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 3 choses qu'on teste. Et en fait, on les teste en mode commando. En fait, chaque semaine, on fait 3 jours de test. Donc on crée des pages de vente, on écrit des emails, on écrit des publicités Facebook, par exemple, et on les lance, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça sur un mode itératif. Et ça devient intéressant, c'est que donc, la première semaine, on fait 3 jours de prod. Donc, landing page, pub, email, etc. On les présente au client, ils nous valident, on lance. Deuxième semaine, on refait 3 jours de prod. on présente au client. Et à partir de la troisième semaine, on lance. Ça devient intéressant parce qu'en fait, ce qu'on a produit semaine 1, qui a été lancé semaine 2, on a les premiers résultats. Et du coup, en fonction de ces résultats, on formule des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, donc, nous posent des nouvelles questions pour lesquelles on va faire de la production pour répondre à ces questions. Ce qui fait qu'à partir de la semaine 3, en fait, on commence à produire en fonction des résultats de ce qu'on a lancé. C'est-à-dire okay. que nous, on est vraiment dans une démarche, on n'est pas sur un plan où on dit on va faire ça. On s'adapte aux résultats de nos premiers tests. Donc dès la semaine 3, on commence à s'adapter. Et en fait, cette méthodologie, ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Parce que là où avant, les boîtes font un plan sur 3 mois, 6 mois, et au bout de 3 mois ou 6 mois, disent ça ne fonctionne pas, nous, dès la troisième semaine, on peut voir que quelque chose marche très bien et appuyer à fond dessus. On a des boîtes pour lesquelles, à la troisième semaine, on a commencé à tout exploser. On a dépensé 2000, 3000, 4000 euros par jour, par exemple, en publicité. On a des boîtes sur lesquelles on se rend compte que ça ne fonctionne pas très bien. Et là, du coup, par exemple, que la page, elle ne convertit pas, qu'il y a un problème sur les ads, etc. Et du coup, on va changer les publicités, on va réécrire les emails, on va changer la pub et on va changer la page et là, de vente. Et là, on arrive à avoir du résultat. Et le troisième cas, c'est on voit que ça ne marche pas du tout. Et là, on dit on change complètement d'axe. Là, par exemple, pour un grand groupe agroalimentaire, troisième semaine, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Du coup, on a revu tout le copywriting, donc toute la façon d'écrire. On a fait un produit beaucoup plus clivant. On a même repositionné légèrement le produit. Okay. Et là, on sent qu'on va avoir de la perte.
Ok, donc en fait, ce que vous... Vas-y.
Non, mais voilà, pour dire que voilà, c'est vraiment ça, Germinal, c'est vendre des missions commando. Et à la fin de ces missions, en fait, pour terminer, c'est ça, nos différentes offres. Pour expliquer nos différentes offres, c'est qu'il y a trois possibilités. Soit on forme la personne en interne, soit elle donne ça à un autre prestataire, parce que parfois on arrive, il y a déjà un prestataire qui est en place et les gens ont envie de garder leur prestataire, c'est assez rare mais ça arrive. Ou troisième cas, après on passe à notre pôle scale, donc ça c'est le pôle qui va faire du growth, qui va continuer à faire ce qu'on fait mais sur le très long terme, donc sur 6 mois, sur 1 an, et il va utiliser nos apprentissages, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris sur long terme. Et donc ça c'est notre équipe chez nous et ça nous permet de gérer et d'avoir de la croissance sur long terme.
Ok,
et
donc,
pour expliquer,
vas-y.
Donc ça c'est vraiment notre scale, et pour terminer, cette mission commando, on peut la faire sur des produits qui existent. Donc ça, c'est assez clair. Ou des produits qui n'existent pas encore. Et donc là, on va être sur de la précommande, etc., sur l'accès à la bêta. Et en fait, ça va permettre de tester des produits. Et en fait, ça, c'est ou des services. En fait, c'est des études de marché de nouvelle génération. Voilà, donc ça, c'est pour résumer, être très exhaustif sur tout ce que fait Germinal.
Ok, donc moi, la question que je vais te poser, c'est quoi typiquement les besoins de tes clients? Donc là, tu l'as fait un peu comprendre, ça peut être des études de marché nouvelle génération, un peu until, c'est fake it until you make it, un peu ça. Ou alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être générer du lead, de l'engagement, de la visibilité. Dis-moi un peu les besoins, les 2-3 besoins que vous avez à résoudre pour vos clients.
Alors nous, on a des besoins, on a des boîtes qui viennent nous voir en partant du plus, moins mature au plus mature par rapport aux produits ou aux services. C'est la boîte qui vient nous voir et qui nous dit bon les gars j'ai un produit mais je sais pas s'il va marcher, voilà, j'en sais rien, et avant de le développer, par exemple un grand groupe qui nous a dit ça nous coûte 2 millions de développer ce produit, dites moi si ça va fonctionner. Et là du coup on se prend 4 semaines à fond, ce que je te disais, on fait des pages de vente, etc., on crée une identité visuelle, des fois on trouve le nom du produit, on le positionne, okay. etc. Donc des fois on fait vraiment un travail,
c'est poussé quoi.
Voilà, ça peut être très très poussé. Et je pourrais te montrer des produits où le brief c'était une feuille A4 et tu verrais la page, tu me dis waouh, mais ton produit, on a vraiment l'impression qu'il existe.
Okay.
Et c'est hyper important parce que si on n'a pas l'impression qu'il existe, les personnes répondent, elles vont avoir un biais, et si elles ont un biais, du coup les résultats seront différents du jour du lancement. Donc on a vraiment ce besoin-là. Donc la personne qui vient de voir et qui dit j'ai un produit mais j'aimerais bien savoir si ça va fonctionner, sur quelle audience, et j'aimerais bien savoir quel sera mon coût d'acquisition. Et du coup on lui dit bah, en fait avec notre méthode et dans des conditions quasi réelles, donc du coup si là ça fonctionne, dans 6 mois ça marchera, enfin, sauf si le marché a changé de façon énorme, mais c'est assez rare.
Okay.
Ensuite on a le deuxième cas, c'est les boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent les gars aujourd'hui ça fonctionne, j'ai testé des choses, j'ai envie d'accélérer. Typiquement c'est Frishti qui vient nous voir et qui dit les gars moi mon business il marche déjà, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus fort. J'ai énormément de choses à tester, mais comment est-ce qu'on fait? Et là, on se fait 4 semaines, on dépile, on fait des tests, on teste des nouveaux angles, on teste des nouveaux canaux, etc. Et là, on arrive à améliorer les perfs, à augmenter le volume.
Okay.
Donc ça, c'est vraiment le deuxième cas. Et on a aussi un cas qui est un peu entre les deux. Je le précise, ça nous arrive assez régulièrement, donc je le précise. C'est la boîte qui vient de voir, qui dit j'ai lancé mon produit. En fait, elle ne savait pas qu'elle pouvait le tester avant avec notre service, et c'est la boîte qui dit j'ai lancé mon produit, j'ai aucune idée de où le vendre, comment en ligne, aidez-moi.
Okay.
Et donc ça c'est très proche d'une mission étude de marché, sauf que là le produit existe vraiment et qu'on peut vraiment faire des ventes. Donc ça arrive aussi, mais ça généralement c'est des boîtes qui nous disent si j'avais su que vous existiez, je serais venu vous voir avant,
sauf qu'après bah oui
pas encore.
Parce qu'après c'est plus dur de pivoter parce qu'il y a un produit qui a été fabriqué, etc., etc. quoi.
Exactement, et ça c'est un cas qu'on a encore, mais je pense qu'on aura bientôt plus, parce que maintenant les gens ils viennent nous voir quand leur produit, même des startups viennent nous voir au stade de l'idée maintenant.
Ok,
c'est
d'accord.
une grosse start-up qui innove, etc. Et le dernier cas, c'est une boîte qui me dit, voilà, j'ai un truc qui marche, et en fait, j'ai pas assez de temps en interne, j'aimerais bien que vous gériez ça sur le long terme.
Ouais.
J'aimerais bien que vous, en fait, j'aimerais bien scaler, c'est-à-dire j'aimerais bien dépenser 50% de plus en budget cette année pour faire 60% de chiffre d'affaires en plus. Je dépense déjà 1000, 2000 euros par jour, aidez-moi à dépenser plus, aidez-moi à envoyer plus d'emails. Et là, l'objectif, c'est souvent après la mission commando. Et parfois, il n'y a pas de mission commando. Et là, c'est vraiment dire, voilà, là, on veut gérer sur longtemps, on veut gérer sur 6 mois, on veut gérer sur 1 an. Et là, on est plus dans de la gestion agressive de campagne, c'est-à-dire en permanence en train d'essayer d'augmenter les budgets, etc., en faisant des tests. Mais au lieu de faire 3 jours de tests par semaine, on va faire 3 jours de tests par mois. Et ça, généralement, ça vient très souvent après une mission commando. En gros, on a certains clients, c'est le client un peu, pour dire le client type, c'est le mec vient nous voir avec un produit qui n'existe pas encore, on le teste, mission commando, un peu étude de marché, on voit ce qui fonctionne, il développe son produit. Ensuite, pendant 4 semaines, on fait 4 semaines de mission, donc, parce que des fois, c'est 6-8 mois après, donc le marché a un peu changé quand même. On fait 4 semaines de mission pour arriver à trouver ce qui fonctionne, on arrive à décrocher les premières ventes, etc., on voit ce qui marche. Et ensuite, on part sur une mission scale long terme où là, on va gérer sur l'année, on signe un contrat à l'année avec eux.
Ok.
Donc voilà, c'est pour te dire qu'en fait, on arrive vraiment aujourd'hui avec la même méthodologie en itération,
à quadriller,
avec
ouais.
la même expertise, on arrive un petit peu à avoir tout le panel de cycle de vie d'un produit et de cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Donc j'ai une petite question, mais avant tout ça, c'est quoi le délai entre la prise de contact avec vous et le début d'activité où vraiment vous commencez à tester chaque canot, chaque angle avec le client, vous commencez à tabasser l'algorithme à coups de milliers d'euros pour tester pendant 3 jours, etc. C'est quoi ce délai ?
Bah, nous, généralement, on s'engage avec les clients, c'est entre 7 et 14 jours pour avoir le kick-off, pour commencer.
Okay.
Et les premiers tests, ils sont lancés 8 jours après le kick-off.
D'accord.
Donc, c'est 7 jours, la revue du client, on implémente les retours et on lance. Donc, ce qui fait qu'on a des clients, souvent nos clients, ils sont très pressés. J'ai rarement des clients qui viennent me voir et qui ont le temps. La plupart du temps, les clients ils disent, faut qu'on attaque maintenant, faut qu'on attaque dans 10 jours, dans 15 jours. Et si on mettait plus de temps à attaquer, on aurait un problème. Donc on s'est organisé en interne.
Vous les closez
pas. Ça nous arrive d'avoir des listes d'attente, mais la plupart du temps, on arrive à absorber la charge. Parce qu'on a une méthodologie en interne, en fait, où la partie marketing et la partie growth de Germinal, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est mise au service de clients si on se rend compte qu'on a trop de charge. Donc ça nous permet un peu d'amortir la charge. Et au contraire, quand sur certaines périodes on a un peu moins de clients, et bien en fait les personnes vont travailler, vont faire du contenu, etc. pour plus tard. Donc on arrive un petit peu à jouer comme ça sur notre département revenu, qui s'occupe des sales et du growth, et de pouvoir amortir pour pouvoir faire face à une légère surcharge.
Okay.
Ça nous a demandé pas mal d'organisation en interne, mais ça fonctionne pas mal.
Alors justement, on va en parler tout à l'heure de combien vous êtes. Tu vas m'expliquer un peu, tu vas me parler de votre team, etc. et comment vous vous organisez. Avant tout ça, donc, tu m'as parlé de l'offre Discover, Optimize et Scale en fonction du besoin. C'est quoi ?
Ouais.
Alors me donne pas, alors tu peux, hein, tout ce qui est panier moyen, etc. Mais à partir de quel budget on peut commencer à travailler quelque chose d'intéressant avec vous, minimum, maximum ? Alors maximum, on se doute que ça peut aller, voilà, mais le minimum,
ouais,
vraiment.
Ça peut aller assez haut, mais... En gros, nos premières offres, en fonction des besoins, parce que on a des offres différentes, on a accompagnement, etc. Mais en gros, ça commence entre 10K au plus bas. Enfin, nos premières offres, en fonction du besoin, c'est entre 10 et 14K. Quoi.
Ok.
En gros, et ça va monter de 18 à 26. Après, tu vois, il y a des réglages. Est-ce que tu as 2 personnes en réunion ? Est-ce que tu as 1 personne en réunion ? Est-ce qu'on fait 4 jours par semaine ? Est-ce qu'on fait 3 jours par semaine ? On sait, par exemple, que les grands comptes, ils ont souvent plus de besoins sur l'accompagnement, etc. Et on leur recommande pas du tout l'offre à 10K parce qu'ils seront pas du tout... en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas avec eux. Et au contraire, une startup avec l'offre à 14K, généralement, ils vont être un peu frustrés. Ils vont dire, je comprends pas, vous me faites un super beau reporting, etc. Moi, j'avais pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, il y a des différences. Mais voilà, en gros, ça commence entre 10 et 14K. Et après, le plafond haut, hein, on a des boîtes où on peut signer des contrats à 100 ou 150K à l'année quand il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est pour donner une idée.
Ok, donc là, en disant ça, tu as anticipé un peu ma prochaine question. C'est, est-ce que vous travaillez en remote une fois que c'est signé, etc. ou est-ce que vous vous déplacez dans les locaux de l'entreprise ? Comment ça se passe en fait ? Comment vous bossez ?
Alors, nous, toute la partie exécution, production, elle est faite chez nous. Donc nous, on ne se déplace pas chez nos clients. Notre méthodologie, nos outils, ça doit être fait en interne. Si on prend nos équipes et qu'on les met chez nos clients, ça ne marche plus. La magie, elle opère plus, on n'arrive plus à être aussi rapide.
Vous avez essayé ?
On a essayé, ça ne fonctionne pas du tout.
Okay.
Sauf dans des cas très précis, où ça va être juste une journée sur un cas très précis, mais dans 95% des cas, on travaille de chez nous. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le client souvent au kick-off. Il vient chez nous, généralement. Ensuite, on fait tout en remote et même en visio. Donc même toutes les réunions suivantes, tous les growth meetings suivants seront en visio. Okay. Et généralement, le bilan, on va chez le client. Donc des fois, ça nous fait aller un peu loin. Là, par exemple, on a travaillé avec M&M's en B2B. Du coup, on va aller les voir la semaine prochaine. C'est assez loin de chez nous.
Okay.
Mais voilà, c'est un petit peu la méthode. Et nous, on est partisans de la visio et du fait de ne pas se déplacer. Parce que moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est si vous voulez qu'on se déplace, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand j'ai quelqu'un qui, pour faire une réunion d'une heure et demie, faire une heure de transport aller, une heure de transport retour, bah, je dois les facturer. Et moi, ça m'embête de faire payer plus cher. Pour
ça ne vaut pas forcément le coup, quoi.
Voilà, c'est ça. Et moi, si tous mes growths devaient faire des allers-retours, etc., aujourd'hui, on serait obligé de facturer plus cher pour le même prix, juste pour pouvoir se déplacer. Ouais. Et moi, fondamentalement, ça me gêne, parce qu'on n'apporterait pas un service de meilleure qualité.
Ok, tu m'as déjà donné un peu des exemples de ce que tu as dans ton portefeuille client, Frishti, etc. Sur ton site, bon, on voit tout type, on voit Ubisoft, Engie, LVMH, TF1, Unilever, la BNP Paribas, etc. Est-ce que tu peux aussi me donner d'autres exemples de startups, comme Frishti, par exemple, avec qui vous avez bossé?
Alors, en startup, ce que je disais, on a beaucoup bossé avec Ornicar.
Ouais.
Sur la partie Eno, c'était hyper intéressant d'ailleurs avec Enguerrand, que si jamais un jour il écoute ce podcast, très très pertinent comme mec. Et on a bossé avec Cityscoot. Donc sur la partie growth, on les a aidés un petit peu à ouvrir des nouvelles villes, etc. à un moment, notamment sur Nice, beaucoup, au moment où ils ouvraient Nice. Ouais. Alors Payfit, on les a vraiment juste coachés sur la partie Facebook Ads. Mais ça a été un truc hyper enrichissant pour nous et pour eux, je pense que c'était vraiment cool. On a bossé, c'était vraiment c'était pas une mission commando, c'était particulier Payfit, mais c'était vraiment cool.
Payfit qui est en train de devenir une super boîte.
Et ils sont très très forts, très très forts. D'ailleurs, on les a coachés, nous ça nous a vraiment poussé au maximum, tu vois, de coacher des mecs comme ça, nous, même si ça a été, ça nous a vraiment poussé au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est quand t'as des mecs aussi forts en face de toi et que t'es juste 10 ou 15% plus fort que ces mecs-là, et tu dois leur apporter ton savoir, c'est hyper challenging. Tu vois.
Ouais,
c'est pas un truc que t'arrives, tu dis ouais, vas-y, fais ça, faut vraiment se creuser la tête pour arriver à les faire progresser. Et oui, aussi, après, on bosse avec plein de boîtes de taille plus modeste. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on bosse avec beaucoup de grosses boîtes, avec beaucoup de très belles startups et scale-up. Mais on a aussi énormément de boîtes, 10, 20, 30 salariés avec lesquels on travaille. C'est des noms qui vous diraient rien, mais ou peut-être que vous connaissez, mais c'est des boîtes qui ont moins d'aura, mais avec lesquels on bosse, et voilà, aujourd'hui, on doit faire 30 ou 40% de chiffre d'affaires avec des boîtes de moins de 30 salariés.
Ce qui est considérable.
Ouais, ce qui est énorme, mais d'ailleurs, c'est hyper kiffant de aussi bosser avec des plus petites boîtes. D'ailleurs, en fait, on s'y retrouve vraiment avec les trois types de boîtes, c'est-à-dire, quand vous bossez avec des grosses startups, on a bossé avec Talent.io, enfin, je pourrais pas toutes les nommer, mais en gros, là, c'est vraiment hyper exigeant, c'est des mecs qui sont hyper chauds et qui souvent ont déjà bien structuré. Bosser avec des plus petites boîtes, là, souvent, on les aide vraiment à mettre en place et on a vraiment la satisfaction quand on a bossé avec ces boîtes, qu'on a réussi à les aider à mettre en place quelque chose et qu'on les a vraiment fait passer au next level. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Mobile Club, c'est une boîte, c'est Damien Morin, l'ancien de Save,
ouais,
qui est monté Save. Il est très, très chaud, mais en acquisition, je pense qu'on a vraiment réussi à les faire passer au niveau du dessus. En termes de pourcentage, tu vois, c'est peut-être 30%, 40% de perf en plus sur les meilleures campagnes. Okay. Alors que quand tu vas bosser avec une grosse boîte qui a déjà une grosse équipe acquisition, si tu vas chercher 10 ou 15% de perf, c'est déjà énorme, tu vois.
Ouais, donc en fait, ce qui est cool, excuse-moi, je te coupe, ce qui est cool, en fait, c'est que vous êtes capable de vous adapter et d'être efficace pour tous les types d'entreprises.
Ouais, exactement. En fait, on n'a même pas les mêmes process en interne. C'est-à-dire, si on bosse avec une scale-up, si on bosse avec une PME, si on bosse avec une start-up qui vient de lever ou qui est au tout départ de sa mission, etc., on n'a pas les mêmes process. Et nous, en gros, on a une typologie entre 7 et 8 clients cibles. Et on a des typologies, si c'est un petit commerce, un gros e-commerce, si c'est un B2 small B, B2 big B, etc. Et en gros, on a des process, on a des tests, on a des expérimentations qui sont différentes. Et au début, nous, on ne pouvait pas se le permettre quand on était 4-5 et on devait vraiment viser certains types de boîtes. Et maintenant qu'on est de plus en plus nombreux, les gens commencent à avoir des spécialités et on peut, même nos gros stratégistes qui sont les responsables clients, qui gèrent le client au quotidien, ces gens-là, ils ont des spécialités.
Ok, donc en fait, vous êtes devenu carrément flexible, quoi. On peut vous tordre dans tous les sens, vous allez savoir répondre, etc.
Alors, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas faire et il faut faire attention. Tu vois, par exemple, nous, aujourd'hui, on ne fait pas de SEO, on ne fait pas d'affiliation. Donc, il y a par exemple des canaux d'acquisition qu'on n'utilise pas.
Okay.
On ne sait pas faire de scale sur la micro-influence. On sait tester la micro-influence, mais pas faire du scale. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a des boîtes sur lesquelles, tu vois, à un moment, on est moins bon sur les teenagers. Donc, moi, une boîte qui me dit, ma cible, c'est les 13-16 ans, 13-18. On peut le faire, mais on sera moins bon.
Okay.
On saura faire de l'ads, mais c'est tout. Et il y a d'autres leviers d'acquisition sur le teenager. Je pense qu'il y a des efforts à faire de nous, de notre côté, sur rentrer dans le produit, dans les boîtes aussi. Tu sais, pour aider un produit, une app, par exemple, in-app, comment in-app on augmente la rétention.
Okay.
Voilà, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas faire. Mais sur la partie vraiment acquisition en ligne, sur la conversion, etc., on est vraiment très très chaud. Mais voilà, on ne sait pas tout faire. Et aussi, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que tu m'aurais interviewé il y a un an, il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire. Et je t'aurais dit ça, on ne sait pas le faire.
Ça évolue, quoi.
Mais à force d'avoir des clients, je crois que au dernier. J'ai coutume de dire qu'on a eu 160 clients, mais là, je crois qu'on a dépassé les 200 avec Germinal. Après, il y a tous ceux que j'ai accompagnés en perso avant. Et quand tu as vu passer plus de 200 clients, tu commences à avoir une certaine expertise.
J'imagine.
Et aujourd'hui, moi, quand j'ai une boîte qui vient me voir, dans 90% des cas, j'ai déjà bossé avec des boîtes avec des problématiques similaires.
Donc maintenant,
parce que comme on fait des missions courtes, alors maintenant on fait du scale, mais ça on le fait que depuis août. Comme on fait des missions courtes, on doit avoir énormément de clients pour générer assez de chiffre d'affaires. Et du coup, ça fait qu'on a vu énormément de boîtes et même nos refs, on avait fait un tableau avec toutes nos refs, ça n'avait aucun sens.
Parle-moi du début, comment vous êtes lancé, dans quel contexte, est-ce que voilà, justement vous avez dû faire votre métier pour choper vos premiers clients? Comment ça s'est passé? Est-ce que voilà, c'est avec le réseau, tu as commencé à travailler avec telle boîte, puis avec le bouche à oreille, ça allait hyper vite? Ou est-ce qu'au contraire, tu es arrivé, tu n'avais pas du tout d'accroche réseau, et puis tu as dû vraiment vendre ton produit comme tu allais vendre n'importe quel autre produit? Comment, si tu veux, la braise a pris?
Bah, au début, je pense que c'est comme tout le monde, c'était compliqué. En fait, moi, quand je suis parti de Coworking Grenoble, il y a deux boîtes qui me connaissaient là-bas, donc c'était du réseau, parce que ça faisait un an qu'ils me voyaient le faire. Ça a été une petite mousse et Lovebox qui m'ont appelé pour les coacher. Donc ça a été moi, perso, mes deux premiers clients. C'était vraiment le réseau de Grenoble. C'est vraiment des boîtes qui m'avaient vu grandir, qui m'avaient vu faire des formations, etc. Et qui m'ont dit, on t'appelle. Donc ça a été mes deux premiers clients, à moi, perso.
Okay.
Et le premier client à ce qui deviendra plus tard Germinal, c'est, en fait, j'ai fait une conférence chez Virspirens, un gros assureur qui a été un très bon client, et d'ailleurs, pareil, je remercie de nous avoir laissé notre chance au départ. En fait, j'ai fait une conférence là-bas, et sur le growth hacking, parce que du coup, comme j'avais un petit peu d'aura autour du growth hacking, pour te dire, c'est un mec qui avait assisté à la première des 7 saisons de la formation.
Okay.
En fait, je crois que, donc c'est Bernard, et en fait, je crois que c'est sa femme, ou alors c'est lui qui est ami avec le mari de Charlotte, bref, tu vois le truc, okay. Hyper loin. Elle a dit, est-ce que tu connais quelqu'un en growth hacking? Il m'a dit, ah, je crois que Bernard connaît quelqu'un. Et Bernard m'a dit, je te recommande Grégoire, etc. On s'est eu au téléphone, elle m'a dit, ok, t'es convaincant, viens faire une conférence. Okay. Je suis venu faire cette conf, j'ai donné tout ce que j'avais, hein, littéralement. Déjà, j'étais stressé, mec, mais il y avait genre 100 personnes dans la pièce, et moi j'étais en PLS.
Hein. Ouais.
J'ai fait ma conf, j'étais au taquet, j'étais à fond absolu. Et en fait, à la suite de la conf, il y a une nana, Sylvie, Charlet, d'ailleurs, il faut lui faire une statue à sa gloire. D'ailleurs, on mange avec elle dans deux semaines, parce qu'on la voit encore très régulièrement pour lui donner des nouvelles. Et en gros, elle m'a dit, ah, ça m'intéresse, est-ce que tu voudrais me rencontrer pour bosser avec vous? Et en fait, je l'ai rencontré à Grenoble. En fait, la boîte est il y a 2 ans. J'avais le bureau à Grenoble.
Ouais.
Et donc, on s'est vu à Grenoble avec le DG de la boîte, c'est le cabinet branché. Ils assurent des médecins, et en gros, du plateau lourd. Et en gros, elle m'a dit, vas-y, explique-moi ce que tu fais. Je leur ai appris un tel truc. On me dit, vas-y, c'est génial, on commence. Elle m'a dit, par contre, je veux bien ta prestation en coaching, mais il me faut quelqu'un qui fasse l'exécution, parce que moi, j'ai personne en interne. Et du coup, là, j'ai appelé Benjamin, qui avait créé Gros France, la plus grosse communauté de Gros, le Slack Gros Vaccine France, qui est maintenant avec Gros France. Enfin, qu'il n'a pas créé tout seul, il a créé avec David et Mélanie, il y a pas mal de gens dans l'équipe. Mais à l'époque, moi, je voyais que lui, donc je croyais qu'il y avait que lui. Et en fait, c'était pas le cas, mais ils sont plusieurs à l'avoir créé. Mais du coup, il a créé, je l'appelle, je l'ai écrit sur le Slack, je lui ai dit, que tu connais un Gros, si je connais quelqu'un, je l'appelle. Et là, il me dit, ah, je te présente Paco. Et là, Paco, donc, j'avais jamais vu en physique. Je lui parle, je me rends compte que le mec, il est bien meilleur que moi en termes de production, en termes de technicité. Et on a commencé le premier client où moi, je faisais l'accompagnement et lui faisait l'acquisition. Au début, c'était n'importe quoi. Je veux dire, enfin, on faisait des rapports, tu sais, sur Excel, on n'avait pas de template. On envoyait aux clients les nouvelles toutes les semaines, mais on était à 450€ la journée.
Ouais.
Donc, c'est pas incroyable.
Mm-hmm.
Mais voilà, et on a eu ce premier client. Ensuite, on a eu un deuxième client du même groupe. Donc ça c'est parce qu'un peu bouche à oreille, et en fait il m'avait parlé, je lui ai envoyé un email, et comme on avait déjà bossé avec quelqu'un du groupe, on l'a eu, il m'a dit allez ok go, donc ça nous a fait 2 clients.
Mm-hmm.
Ça c'était en septembre 2017, là on s'est dit faut qu'on monte une boîte, et là je te dis on s'est donné 3 mois. Et le troisième gros client qu'on a eu avec Emeric, d'Alcatel Lucent Enterprise, c'était un très gros client pour nous, et ça a vraiment été incroyable de bosser avec lui. En fait il m'a appelé pour me recruter au départ.
Ok.
Et en fait, et je lui ai dit, je l'ai pris, et je lui ai dit qu'en fait, il cherchait un head of growth, et je lui ai dit, bah, moi, je fais head of growth part-time, je fais ça en free. À l'époque, j'avais pas de boîte, hein, je rappelle.
On n'avait
même pas de nom. Et il m'a dit, ok, ça m'intéresse. Et là, je suis allé avec Benjamin, on lui a présenté le truc. On avait déjà des rêves, parce que moi, j'avais formé des gens. Benjamin, il est bossé en freelance, et il bossait dans une autre boîte, Paco, il bossait en freelance, donc on avait quand même pas mal de rêves. Pareil, on avait un prix qui était hyper accessible.
Okay.
On était no bullshit. Et le mec m'a dit, allez, go, on attaque. Et c'est pareil, c'est devenu un très gros client. Et on a vraiment beaucoup bossé avec eux. On a vraiment tout donné avec ces premiers clients, d'ailleurs. C'était incroyable l'énergie qu'on y passait. Mais voilà, donc deux premiers clients, c'est une conférence, c'est un mec qui essaie de m'appeler pour me recruter. Et dans tous les cas, c'est des gens qui nous ont fait confiance et nous, on a joué notre chance.
C'est toujours ça, de toute façon. Il faut toujours ce petit truc.
Ah non, mais c'est vraiment. Enfin, je pense que les gens, souvent, ils disent ah, vous êtes premier client. Mais en fait, les gens disent comment t'as fait pour bosser avec une boîte. On a bossé avec Alcatel pendant un an, avec le cabinet Monchy pendant un an et demi. Je dis, mais en fait, avec SOS Malus pendant 9 mois. Et je disais, mais en fait, et on faisait toute leur acquisition, en ligne.
Vous gériez tout, quoi.
Ouais, on faisait tout, mais dès qu'ils nous disaient un truc, on disait jamais non, quoi. Et on cherchait, on tryhardait. Ça nous arrivait de les rembourser quand on leur disait on peut faire un truc et finalement on pouvait pas le faire. Okay. Et à un moment, on leur a vendu un truc 4 jours, on y a passé 20 jours. On leur vendait 3 jours par semaine, mais on devait en faire 5 ou 6, quoi.
Ok. Vous donniez votre âme, quoi.
Voilà, mais on donnait tout parce qu'on voulait se faire des rêves, parce qu'ils nous faisaient confiance et aussi on voulait pas les décevoir. Mm-hmm. Donc il y a vraiment ce côté-là. Tu sais, il y a un peu ce côté, ok, t'es au début, les mecs te font confiance. Ils pensent que t'es petit, mais ils pensent pas que t'es aussi petit que ça, tu vois. Parce qu'en vrai, on leur disait, on a déjà monté la boîte et tout, on est 4-5, alors qu'on était 3, bon, on était pas, tu vois. On exagérait un peu, on se faisait un peu plus gros qu'on était, tu vois.
Ouais.
Et on se donnait tellement à fond. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché et que c'est les clients avec lesquels on a bossé. Et si ces 3 clients-là, on s'était pas donné à fond et que les 3 nous avaient lâché,
vous en serez pas là.
Germinal, tu serais mort dans l'œuf, quoi.
Ok. Franchement, j'aurais pas pu demander mieux. Comme début d'aventure. Tu m'as super, super résumé. Franchement, top. Écoute, maintenant, tu vois qu'on a bien compris Germinal, ce que vous faites, pour qui vous le faites, à combien vous le faites, comment vous le faites. Moi, je vais te demander, tu m'as un peu teasé là-dessus. Aujourd'hui, Germinal, vous êtes combien? Présente-moi un petit peu l'équipe. Donc, combien? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des sales? Qui est au marketing? Qui est au produit? Qui est au site? Bon, je pense avoir compris que vous êtes à moitié dev, si je dis pas n'importe quoi. Voilà, explique-moi tout ça. Remets-moi dans le contexte.
Aujourd'hui, là, lundi, on est 28 salariés chez Germinal.
Ok.
Donc,
c'est déjà pas mal, voilà. C'est beau.
Ouais, c'est pas mal, t'inquiète, ça fait du salaire à la fin du mois, ça les plaît.
Ok.
Donc, en gros, on est divisé en 5 équipes. On a la type ressources humaines avec une seule personne. Donc c'est Kevin Duchier, du coup, qui s'occupe de tout le recrutement de la chasse et de s'occuper que nos talents en interne, ils savent où ils vont, ils lui font remonter en permanence des améliorations, etc.
Okay.
Après, on a la type finance. Donc ça, c'est une personne qui arrive lundi.
Ok, c'est tout nouveau.
Donc, voilà, grosse équipe. Là, je te présente, je commence par les grosses équipes.
Okay.
Après, on a la team produit. Donc ça, c'est Benjamin, mon cofondateur, qui dit ça. En gros, il y a Maxime qui est directeur technique, il y a lui qui est directeur du produit plus de dev.
Okay.
En gros, il développe l'outil interne de Germinal qui nous permet d'aller aussi vite, qui à la fois nous permet d'avoir des gros gains de productivité et d'aller plus vite que toutes les autres boîtes, que toutes les agences traditionnelles. C'est un peu qu'aujourd'hui, on est sur un modèle service, mais on est en train de se sassifier. En fait, on a vraiment un logiciel aujourd'hui qu'on utilise beaucoup en interne, qui nous permet d'aller plus vite et d'avoir des gains de productivité forts et aussi de pouvoir faire des choses que les autres ne font pas.
C'est votre avantage concurrentiel, le facteur clé de succès Germinal, quoi. Homemade.
C'est ça, exactement.
Okay.
En fait, ça nous permet d'être moins cher, mais en ayant les mêmes marges que les autres.
Ok, on n'en dira pas plus. Hein. Okay.
Voilà, ça nous permet d'être moins cher, plus rapide et de proposer des choses que les autres ne proposent pas. Par exemple, L'Oréal, quand on leur propose de lancer 6 000 pubs différentes pour tester 5 clients, il n'y a personne qui veut proposer ça.
Ok, donc de leur embarque, quoi.
Voilà. Donc si tu n'as pas l'outil, ça ne fonctionne pas. Et ça, à terme, on le mettra à dispo de nos clients. Et l'objectif, c'est qu'en fait, on fasse des missions avec nos clients et qu'ensuite, on leur vende le SaaS qu'on utilise pour que eux, dans leur quotidien, s'ils ont une équipe en interne, ils puissent aller plus vite, ils puissent avoir des meilleurs résultats comme nous aujourd'hui on a.
Et puis en plus, excuse-moi, c'est une ouverture pour un business model pour le diversifier un petit peu, pour vous, en plus.
Exactement, nous, c'est la transition. Nous, l'année 2020, c'est la transition du modèle de service vers une boîte de SaaS.
Ok.
En partie. Donc là, 2020-2021, on sera sur du SaaS, SaaS service.
Ok.
Et 2022, on sera sans doute quasiment full SaaS.
Ok.
Aujourd'hui, nous, notre team, nos growth, aujourd'hui, pour nous, ils font de la R&D. C'est-à-dire que nos groupes qui bossent pour des clients, ils nous permettent de comprendre quelles expérimentations. Alors bien sûr, on apporte énormément de valeur aux clients et c'est pour ça qu'on grossit aussi vite. Hein. Tu te rends bien compte que si on faisait juste de la R&D et qu'ils ne bossaient pas pour les clients, ça ne marcherait pas très bien. Mais dans le sens, toutes les expérimentations qu'on fait pour nos clients, aujourd'hui, nous, on les compile, on anonymise la data, on fait des benchmarks, on regarde les expérimentations qui marchent, on essaie d'automatiser et d'accélérer ce qui marche le plus vite. Et ça, c'est grâce à nos growth qui, tous les jours, trouvent des idées, etc. Et à n'importe quel stade de la boîte, on a des mecs, des fois, qui ont 5 mois d'expérience chez nous, qui trouvent des trucs qui sont géniaux. Donc, ils sont assez incroyables, ils sont tous hyper investis. Bah, c'est assez ouf de bosser avec ces mecs-là, c'est nana. Mais.
Rebondis, parce que tu m'as fait penser à un truc en parlant de data. Sur ton site, vous présentez un peu les 4, si tu veux, les 4 piliers, les 4 valeurs de Germinal. Et le quatrième, c'est que vous êtes hyper focus sur la data. Tu vois?
Ah ouais, c'est un level, tu peux même pas imaginer. C'est-à-dire que. En fait, moi, même en RH, on a des questionnaires de satisfaction qu'on pose chaque semaine.
Ouais.
On demande à nos clients, après chaque rendez-vous, de nous noter.
Feedback et tout.
Sur la prestation, sur la prod, etc. Moi, en fait, aujourd'hui, même dans ce qu'on produit en termes de finances, etc., en termes de dashboard, pour moi, la data, et avec nos clients, c'est culturel. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas une décision au talent. Moi, je ne prends pas une décision si je n'ai pas de la donnée. Et tu vois, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de la data sur chaque réunion client. Et ça me frustrait. Et du coup, on a mis ça en place. Aujourd'hui, chaque personne qui travaille sur une expérimentation chez Terminal, elle traque son temps. Donc moi, je sais chaque jour, chaque personne, sur quoi elle passe du temps, là où elle est rapide, là où elle est lente, sur quel type d'expérimentation on va vite, sur quelle expérimentation on va moins vite.
Pour tout optimiser, quoi.
Ouais, tout est optimisé, ce qui me permet d'aller aussi vite, et on l'optimise de plus en plus. Et juste pour faire la transition, ce que je disais tout à l'heure, après, on a la team opération.
Donc, ouais.
Je te disais, on a la team produit, on a la team opération. Ça, c'est la team qui, aujourd'hui, apporte de la valeur, fait la prod pour les clients.
Okay.
Et en fait, et c'est ce qui à terme, c'est en fait quand on fera un SaaS, cette boîte ne disparaîtra pas, enfin cette équipe ne disparaîtra pas, sauf qu'elle passera d'un mode on travaillera toujours pour des clients, mais ce sera toujours à titre expérimental. Tu vois, c'est toujours cette idée de comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on fait le growth de demain, comment est-ce qu'on a 6 mois d'avance sur tout le monde parce qu'on teste des trucs hyper innovants. Et aujourd'hui, il y a des boîtes qui bossent avec nous aussi pour avoir 6 mois d'avance. Parce qu'elles disent, on sait que vous faites tellement d'expérimentations avec tellement de clients en parallèle qu'aujourd'hui, vous savez dans n'importe quelle industrie ce qui marche. Il y a des industries sur lesquelles on est moins, ce que disaient les teenagers, etc. Mais voilà.
Vous connaissez tous les secteurs, toutes les industries, quoi.
Voilà, exactement. Et nous, aujourd'hui, on agglomère la data. Je crois qu'on a dépensé 5 ou 6 millions d'euros sur Facebook Ads. Après, on est une petite boîte, tu vois.
Ouais.
Donc, on dépense énormément de data. Tu vois, les emails, par exemple, on a fait énormément de tests avec des emails. Et maintenant, nos clients, on leur dit qu'il faut faire tel flow, tel truc. C'est ça qui marche. Et voilà. Bref. Et du coup, là-dedans, en fait, c'est assez marrant parce qu'on a un directeur d'opération, qui est mon cofondateur, Paco.
Okay.
On a un responsable des process, qui est aussi gros stratégiste, qui est Jordan. On a nos gros stratégistes, en fait, c'est les gens qui font la relation client. C'est Mathilde qui s'occupe de ça, et avec les gros stratégistes avec elle. Et ensuite, en fait, on a plein de mini-squads. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a essayé d'avoir quelque chose de pas trop, pas trop vertical. Bon, en gros, c'est des équipes de 3 avec un growth senior et 2 growth plus junior qui, en fait, bossent pour les clients. C'est-à-dire, et qui sont coachés par un growth lead. Et oui, c'est le growth. Donc, le growth lead, c'est un mec qui a 2 ou 3 mini-squads qui coachent, dont ils vérifient la prod. C'est les gens entre 4 et 5 ans d'expérience chez nous. Des gros stratégistes qui sont interface client, qui ont entre 5 et 8 ans d'expérience. Et après, des teams, des mini-squads. En fait, ce qui est génial avec ces mini-squads, c'est qu'ils sont 3, ils ont 4 clients. Et en fait, du coup, les mecs, ils sont hyper investis. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'un growth qui vient chez nous, il n'est pas juste sur une chaîne de montage. Il est vraiment là pour dire, il a son mot à dire sur le client, il a son mot à dire sur la prod. Et il est hyper investi. Si ça marche avec un client, c'est parce que le growth, donc le mec qui fait la prod, il est bon.
Ok, tout le monde a son mot à dire, quoi.
Voilà, c'est vraiment un moyen d'engager. De les concerner, engager, d'avoir des meilleurs résultats et aussi que leur taf soit hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, quand tu bosses chez Terminal avec tes growths, en gros, t'es dans une mini-équipe, donc t'es là, tu t'organises toi-même ton temps avec ton équipe, alors t'as des guidelines pour organiser ton équipe. T'as un mec hyper expérimenté qui te coach et dont son seul métier, c'est de faire que ta prod elle soit nickel et que tu montes en compétences. Tu fais pas de relation client un petit peu, tu vas en réunion client, mais c'est le gros stratégiste qui est hyper expérimenté qui est en interface client. Et du coup, vous savez qu'on a un niveau de qualité de la prod qui est hyper élevé parce qu'en gros, t'as des mecs hyper engagés qui sont coachés par un mec avec énormément d'expérience et dont toute la prod est revue par un autre mec en interaction qui a beaucoup d'expérience.
Okay.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on peut se permettre d'avoir des growths qui ont 1 an, 2 ans d'expérience et qui produisent de la qualité comme s'ils avaient beaucoup plus. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et on a beaucoup de gens chez nous qui sont des autodidactes. On a des mecs qui ont seulement le bac, qui ont planté leur première boîte à 18 ans, qui ont monté 4 boîtes, qui ont 28 ans. On a une nana qui a fait le
Mais qui ont de la vraie compétence, quoi, les mecs qui sont chauds.
Voilà. Et nous, d'ailleurs, pour rentrer chez nous, il faut faire 5 jours de tests payés. Donc pendant 5 jours, tu fais de la production et on te juge là-dessus.
Ça allait être ma question de comment vous recrutez vos grosses. Bien vu, ok.
Voilà, et du coup, en fait, c'est hyper dur. Enfin, c'est à la fois hyper facile et hyper dur. C'est-à-dire que si t'es bon en prod, si t'as les bonnes compétences, tu peux rentrer chez nous en n'ayant pas le bac, etc. Et t'auras le même salaire que les autres. Par contre, t'as beau avoir fait une super grande école, avoir fait le wagon, etc. Il y a des gens, des candidats comme ça qui sont excellents. Mais si en 5 jours, t'arrives pas à nous démontrer que t'es bon, tu rentres pas.
Ok.
Et donc nous aujourd'hui on a vraiment des mecs qui viennent de tous les horizons qui sont déjà chez nous et je te dis on a autant des mecs de 18 ans qu'un mec qui a bossé en agence de 26 ans qu'un mec qui a bossé en startup. Tu vois, il y a un mec chez nous, il a hésité entre aller bosser chez Spendesk et chez nous, et ce qu'il a fait décider à venir chez nous, c'est même s'il a vraiment hésité, hein, Spendesk c'est vraiment une très belle boîte, c'est le process de recrutement où il a dit bah vous allez me tester, etc. Je passe pas les entretiens, je fais 5 jours de prod et je vais vous montrer que je suis le meilleur. Et quand il a fait ses 5 jours de prod, on s'est dit en effet c'est le meilleur. On était très content de l'avoir.
C'est motivant, c'est engageant. Vous avez, si tu veux, une vraie culture avec une vraie organisation en même temps. Et ça motive tout le monde en fait.
C'est ça. Et après, et la dernière équipe, c'est la team revenu. En fait, la team revenu aujourd'hui, c'est personne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de sales. Je suis le seul vendeur.
Okay.
Et en fait, c'est les growth teams que je t'expliquais tout à l'heure qui produisent le contenu. Donc le contenu, l'acquisition, etc. quand il y en a besoin. Et en fait, c'est une team qu'on va staffer parce qu'aujourd'hui, on a quasiment que du bouche à oreille. On a énormément de leads entrants, on a énormément de gens qui parlent de nous. C'est génial, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut vraiment accélérer et que moi, aujourd'hui, je suis dans une position où je dois vendre assez chaque mois, même s'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui vendent aussi un peu de façon en sneaky, tu vois. Genre, c'est pas des essais, mais bon, ils savent ce qu'on fait, ils le présentent, mais ils ont pas la méthode.
Ils savent faire des intros, quoi.
Voilà, exactement. Et bah, c'est un peu ça. Et moi, je dois vendre pour vous donner du taf à 28 personnes. 28, à 28, lundi, on est 27 là.
Ok.
Et ça, c'est pas facile, quoi. Et du coup, là, en gros, on s'est stabilisé sur la partie organisationnelle. On a vraiment trouvé un truc qui marche parce qu'on a changé deux fois d'organisation en 6 mois.
Ok. Quand même.
Enfin, là, c'est la troisième orga en 6 mois, donc je te laisse imaginer. Et là, ça marche vraiment pas mal. Avant, ça marchait bien, mais c'était moins. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, voilà, on est vraiment là-dessus. Et là, on va vraiment structurer une team market, une team sale. À une autre échelle, et je pense que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. À la fin de l'année, on va être 70, on veut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
Okay.
Donc je pense que c'est des objectifs qu'on peut tout à fait atteindre, parce qu'aujourd'hui, on a jamais de force de vente, et je t'expliquerai l'acquisition, comment on l'a fait, mais
bah, écoute.
On a des bonnes méthodes, mais c'est pas non plus incroyable,
ouais.
Parce qu'on en a jamais besoin. Et on sait très bien qu'on a la capacité d'être bien meilleur, parce qu'on sait qu'on le fait pour nos clients, qu'on a dû le faire pour nous à un moment, parce qu'il y a un moment, on a dû vraiment accélérer sur l'acquisition, et c'est ce qui nous a permis de décoller au début.
Mm-hmm.
Mais si on a vraiment cette réputation qui aujourd'hui est, à mon avis, très bonne, même si ça nous arrive de planter des clients, même s'il y a des clients qui ne sont pas contents, on le sait, t'as toujours des clients pas contents.
Ça fait partie du jeu.
On n'a pas été bon, c'était pas le bon service, c'était pas le bon moment, on n'est pas parfait, hein, ça arrive à tout le monde de se planter. Mais voilà, aujourd'hui, on sent qu'on a une traction, on sent qu'on a une très bonne réputation, on sent qu'on arrive à attirer énormément de talents, on a énormément de candidatures. Donc là, il faut juste qu'on structure ce pôle revenu. Et là, je pense qu'on va pouvoir vraiment...
C'est en train de devenir une hyper belle boîte, quoi. On a super bien compris. Tu sais quoi, c'est bien parce que... T'as encore anticipé ma dernière question, c'était voilà justement, donc on a compris vraiment comment ta boîte tourne. Maintenant, c'est justement quels sont vos leviers d'acquisition majeurs. Bon, tu l'as dit, hein, le bouche à oreille, etc. Mais aujourd'hui, Germinal, vous avez choisi d'être présent sur quel réseau? Moi, j'ai vu un peu d'ads tourner sur Facebook, mais pas de l'ads pour vendre le service. C'est vraiment de l'ads un peu décalé pour faire la promotion, attention, de votre équipe et même des fondateurs, tu vois.
On est des gros trolls. En fait, je t'explique. En fait, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter du Germinal, en fait, il a besoin de deux points de contact. Il faut qu'il ait entendu parler deux fois de nous. Et en fait, souvent, la première fois, c'est du bouche à oreille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que soit les gens, il fallait qu'ils entendent parler de nous par deux personnes, et ça commence quand même à être compliqué. Deux personnes, c'est beaucoup. Soit il faut qu'ils entendent parler de nous par une personne et qu'ils nous aient vus sur les réseaux. S'ils nous ont vus sur les réseaux et qu'ils entendent parler de nous, ils nous contactent. On s'est vraiment rendu compte de ça. Ça m'a mis pas mal. J'ai dû faire 3 ou 4 ans de rendez-vous de vente avant de m'en rendre compte. Hein. Ça a été
okay.
Et du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment une stratégie donc de bouche à oreille. On maximise aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dis, c'est intenable sans sales. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté de sales? À un moment, on s'est dit, est-ce qu'on recrute des sales? On s'est dit, on préfère recruter des gens dans la prod pour avoir des meilleures notes et que les gens soient hyper contents, nos clients soient hyper contents, plutôt que recruter des vendeurs. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens à la prod, le jour où nos clients ne seront plus contents, tout ce qu'on fait là, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un business de réputation, tu vois, parce qu'on est une jeune boîte, etc. Et bref, et du coup, en gros, c'est quoi notre canal d'acquisition? Donc, c'est vraiment notre réputation, etc. Donc, on bosse beaucoup.
L'image, ouais.
On fait beaucoup. Donc, tous les gens qui passent sur notre site, on les retarget. Donc, en gros, c'est pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de visiteurs en organique sur notre site. On doit être à 5-6 000 par mois, donc c'est quand même pas mal pour une boîte qui peut-être à plus maintenant.
Pourquoi? Parce que vous avez un bon référencement naturel
Pas du tout. Germinal, c'est une catastrophe. On est 38e.
Alors, comment t'expliques
les gens se donnent le site en direct. Aujourd'hui, les gens ne trouvent pas par Google. Ils nous trouvent au Lifetime Germinal Growth Hacking.
Ouais, parce que, alors écoute, moi, c'est la vérité. Je vais te dire un truc qui, je l'ai encore fait aujourd'hui. Tu tapes Germinal sur Google. Aujourd'hui, c'est un livre qui sort. Bon, voilà, le livre que tout le monde connaît. Alors que pour vous trouver, moi, j'ai tapé Germinal Growth. Tu vois?
Ouais, exactement. Et maintenant, quand tu tapes Germinal, genre, tu sais, Google te suggère des requêtes.
Mm-hmm.
Et genre, en 6e ou en 7e requête, selon ta zone géographique, il te suggère Germinal Startup.
Et alors, comment t'expliques ces bons résultats organiques?
Bah, c'est que les gens, en fait, ils partagent le site. Alors, tu sais, du coup, on a beaucoup d'organique. Je vais t'expliquer comment générer de l'organique. Mais du coup, on a une stratégie de retargeting agressive sur Facebook et sur d'autres régies.
Okay.
Pour que, en gros, quand quelqu'un nous ait vu, on ne lâche pas. Et qu'on a plusieurs, on a 6 dates qui tournent, de mémoire 6 ou 7, on a coupé, je sais. 6 ou 7 dates qui tournent, et le but, c'est de montrer du contenu un peu original, un peu marrant, un peu décalé. Même nos annonces Google Ads, on s'est aussi positionné sur des annonces Google Ads. Tu vois, on s'appelle l'anti-agence, on troll un peu dans les titres.
Ouais.
Tu vois, genre, on la joue en mode anti-agence, agence égale anti-growth, et en fait, quand tu tapes agence growth hacking, t'as tout le monde qui dit agence de growth hacking à Paris, agence B2B growth hacking, agence B2C, et là, t'as une ad qui s'appelle agence égale anti-growth.
Okay.
Et en gros, tu vois tous les mecs qui essaient de dire que c'est des agences de growth hacking, et là, t'as un mec qui te troll.
Qui te dit le contraire.
Et nous, en fait, on fait un peu ça pour tout, on essaie de prendre le contre-pied, on essaie d'être originaux dans notre approche sur les ads, sur les Google Ads, etc. Mais notre. Donc voilà, ça c'est pour.
Vous avez des scénarios de retargeting en fait.
Oui, c'est ça en fait. Et en gros, on a différents types de contenus qui sont poussés, etc.
Okay.
L'autre chose qu'on fait, donc voilà, c'est sur la partie payant. Après, sur la partie organique, comme je te disais, on fait énormément de LinkedIn en organique. Ça vient de la page entreprise de Germinal et de ma page perso. On a vraiment des lignes d'édito qui sont hyper bossées. On travaille beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps là-dessus.
Ok.
Donc, moi, en moyenne, mon profil, il doit être visité entre 300 et 500 fois par semaine.
Sur LinkedIn ?
Sur mon LinkedIn perso, ouais.
Ok.
Donc, ça nous fait du trafic. Moi, mes posts, voilà, j'ai entre 20 et 100 000 de portée de publication sur mes posts. Tu vois, un post qui marche vraiment pas, je suis à 10 000. Un post qui marche bien, je suis à 20, 30 000. Un post qui marche très bien, je suis à 100 000. Et mon meilleur post, il est à 2 millions 2, tu vois.
Ok.
Et on est très. On donne notre avis, tu vois, sur l'écosystème. On donne notre avis sur la parité, sur comment il faut bosser, sur les recrutements. On n'est pas là à dire. On n'a pas un contenu très technique, tu vois. En mode, je te fais une vidéo sur comment faire des pubs Facebook, tu vois, sur LinkedIn. Nous, on part du principe que Germinal, c'est avant tout des valeurs, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour notre recrutement. Donc, on a vraiment cette stratégie hyper forte en organique. Qui fonctionne hyper bien. On fait aussi beaucoup de conférences. Donc, okay. On donne beaucoup de cours. Tu vois, on a animé un programme de 3 semaines à HEC. On donne des cours à Polytechnique. On fait, moi, je dois faire entre 2 et 3 interventions par semaine. Donc, on donne des conférences à, tu vois, là, on donne une conférence à Decathlon. On donne des conférences générales. On donne dans des cours. On donne des conférences à Station F, etc.
Okay.
On donne des programmes devant des fonds d'investissement. Donc en fait, on a une vraie logique de talk aussi où en fait, on partage notre savoir technique. Là, c'est pas inspirationnel. Là, c'est vraiment, on va au fond de ce qu'on sait et on explique tout ce qu'on sait sans aucune retenue. Ce qui fait qu'en fait, les gens à chaque fois, ils sont ouf et ils en parlent à d'autres gens qui nous recommandent, etc. Et on a une vraie stratégie. Aujourd'hui, on donne énormément de talk. J'ai même un mec chez moi, il doit faire ça, Christian, 1/5 de son temps. C'est en gros trouver des gens chez nous pour intervenir sur les talks qu'on doit intervenir.
Okay.
Donc, c'est vraiment une grosse stratégie de contenu. Et enfin, on est en train de s'améliorer, mais on a fait sur du YouTube, on essaie de faire des vidéos très techniques sur YouTube, tu vois, sur Facebook Ads, le Facebook Ads, on va la mettre sur YouTube, elle n'est pas sur YouTube encore, mais c'est sur les analytics, etc. C'est pareil, des vidéos d'un niveau technique extrêmement élevé, c'est-à-dire en gros, tu peux trouver ça nulle part ailleurs sur des problématiques très restreintes, donc pour aider à donner ça. Et enfin, un truc, alors là, on ne le fait pas au quotidien, mais on l'a fait à quelques périodes, c'est on a fait du cold emailing à certains moments dans la boîte. Quand on a recruté beaucoup de gens, etc., ça nous arrive de faire du cold emailing en utilisant toutes les méthodes qu'on connaît, hein, qu'on applique pour nos clients avec des landing pages, etc.
Mm-hmm.
Et en gros, c'est ce qui nous a permis à certains moments de décrocher, notamment les startups. Tu vois, quand on a bossé avec beaucoup de startups, à un moment, on n'avait aucune startup. On a eu nos premières belles startups et on a snowball après, on a fait boule de neige là-dessus avec du cold email, donc avec la prospection froide par email. Donc ça nous arrive aussi. Et là, je sais qu'on va rattaquer la prospection par email parce que nos enjeux de croissance sont énormes et on ne peut pas juste se permettre d'attendre le.
Et vous n'avez pas de newsletter ?
Si on a une newsletter, on n'en a envoyé qu'une seule pour l'instant.
Ok, donc c'est tout frais.
On l'a lancé le mois dernier, ouais, c'est pas encore. On a eu des retours, on a demandé du feedback, etc. On n'est pas totalement satisfait. Donc on va la bosser cette newsletter vraiment, comment on le fait, etc. Mais en gros, en termes de com et d'action marketing, voilà ce qu'on fait. C'est pas structuré. Quand on a dû se structurer à certaines périodes de notre croissance, on l'a fait avec les équipes, donc avec les growth teams, donc c'était hyper carré, on a nous apporté beaucoup de croissance, mais en gros, là, il va falloir qu'on prenne quelqu'un à temps plein. Et en fait, comme on n'est pas obligé de le faire parce qu'on a de la croissance, du coup, on a tendance à être moins carré là-dessus. Et je te dis, pour moi, c'est le dernier pôle, même sur la partie vente. Moi, j'ai même pas de deck, j'ai des slides, mais elles ont toujours 6 mois, elles sont toujours périmées.
Enfin, t'as même pas de deck.
Je me dis, franchement, tes slides, elles sont pas ouf.
Okay.
Donc je sais que c'est le dernier pôle à structurer, c'est le pôle marketing acheté, donc le pôle revenu. Et là, ça va être notre gros gros focus sur les 3 prochains mois. Et je pense que les gens qui aujourd'hui ont l'impression qu'on communique pas mal. mal, sont pas prêts pour ce qui va arriver.
Ok, en fait, il y a encore une case qui est vide et que tu dois bien remplir et optimiser, quoi. Ok, alors on va rentrer sur la première question bonus aujourd'hui. Donc tu m'as parlé un peu des concurrents avec tous ceux qui en termes de valeur écrivent agence, gros hacking, etc. Comment tu surveilles aujourd'hui ce qui se fait un peu, ce qui se propose dans le gros hacking? Est-ce que tu as mis une veille, une certaine stratégie de veille en place, etc.
En fait, nous, à la fois, on regarde ce qui se fait, on est tous abonnés à des newsletters. Tu vois, j'écoute le podcast, tu vois, Gabriel Gourovitch, on a lancé un beau programme de formation avec lui. On a co-brandé avec qui s'appelle Meta d'ailleurs, on fait beaucoup de formations physiques, etc. Avec, donc tu vois, on écoute, moi j'ai pas mal de même dans mon équipe qui écoute le podcast de Gabriel Gourovitch, qui est un très très bon podcast, mm-hmm. sur la partie vraiment growth pure, tu vois.
De Growth Maker
ouais, c'est ça, Growth Maker. Ouais. Moi, à titre perso sur Twitter, je suis énormément de growth, etc. Et je lis souvent des articles et je suis quasiment que des mecs de la vallée parce qu'en fait, les mecs en France ils ont moins de choses à nous apprendre, même s'il y en a qui sont très très bons, mais souvent ils sont un peu moins exposés. Donc okay. on a vraiment une stratégie de veille sur le contenu, mais nous on se concentre aussi beaucoup sur comment est-ce que nous on peut trouver des nouveaux trucs et on peut être influenceur. C'est-à-dire aujourd'hui moi ce que je dis à mes équipes c'est bien de rester à la page, c'est important, mais en fait c'est à nous d'être en avance. C'est-à-dire que nous c'est notre métier aujourd'hui, et aujourd'hui par exemple en Facebook Ads en B2B on a développé une méthodologie, en emailing en B2B on a développé une méthodologie. Tu vois, il y a 6 mois je trouvais qu'on était bon en B2B mais qu'on n'était pas excellent. Je pense qu'aujourd'hui on est les meilleurs du marché en B2B.
Okay.
Parce que pendant 6 mois, on a bossé comme des malades, à expérimenter plein de trucs, à tester des trucs, mais genre hyper audacieux, etc. Et on a réussi à trouver des choses simples qui fonctionnent très bien, mais pour lesquelles on a dû tester des trucs complètement en border pour arriver à voir que ça marchait dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. C'est marrant comme à la fin, quand t'as la solution, ça paraît simple.
Vous avez fait énormément d'expérimentation pour en fait, au final, trouver la clé, quoi.
Voilà, exactement. Et en gros, voilà, nous, on fait de la veille, mais ce que je dis, c'est, tu sais, pour gagner la course, un mec qui. J'ai une image qui me vient, mais
vas-y.
C'est quand, pour les champions du monde de natation, celui qui gagne, c'est pas celui qui rate son vrai, celui qui gagne, c'est celui qui rate la ligne d'arrivée.
Ouais.
Et nous, on a vraiment cette dynamique. Moi, je dis à mes équipes, c'est bien de regarder ce que les autres font, mais à un moment, c'est aux autres de nous regarder. C'est pas à nous de regarder les autres. Donc, bien sûr, on écoute des podcasts, la Growth Letter, tu vois, de Spendesk, qui est très bonne qualité, qui souvent trouve des bons articles, on parle avec nos pairs, on prend des cafés, etc. Mais et c'est hyper important, et moi, je passe beaucoup de temps à
c'est une vraie mentalité, en fait.
Ouais.
Tu vois.
Non mais voilà, mais avant tout je regarde la ligne d'arrivée et je me dis je me concentre pas sur ce que les autres font, je me concentre sur la ligne d'arrivée.
Ok, hyper bonne réponse. Deuxième question que je t'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est donne-moi ton ressenti sur l'entrepreneuriat. Je m'explique, le Grégoire qui aujourd'hui donne des confs, etc., etc., est-ce que tu peux me donner le delta avec le Grégoire qui commençait dans l'entrepreneuriat, que ce soit personnellement, donc sur toi-même, et professionnellement en fait, comment tu idéalisais le truc, comment tu rêvais le truc alors qu'en fait il y a un monde entre les deux?
Alors déjà, il faut savoir un truc que je n'avais pas compris. En fait, l'entrepreneur débutant, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, tu ne te rends pas compte que tu ne sais rien, en fait. Et il y a un moment dans l'entrepreneuriat, au bout de 2 ans, j'ai compris que je ne savais rien. Et qu'en fait, il fallait que je demande, il fallait que je trouve des mentors sur des problématiques, etc. Et ça m'a vraiment permis de progresser. Mais si je me souviens de moi il y a 5 ans, c'est que je pensais que je savais, tu vois.
Okay.
Et parce que j'avais écouté des podcasts, parce que j'avais vu des vidéos, j'avais l'impression de savoir. Alors qu'en fait, je ne savais rien du tout. Donc il y a vraiment ça, et je sais que j'ai eu ce point de bascule il y a, c'est pas exact ce que je dis, je pense qu'il y a 1 an et demi, où j'ai compris que je savais rien, et là j'ai commencé à vraiment être dans un bon mindset, etc., et être hyper attentif.
C'est un déclic en fait.
Voilà, et même aujourd'hui, tu vois, je sais que pour passer de 30 à 100 ou à 150, il y a plein de trucs que j'imagine même pas comme problème. Et comme je sais que je les imagine pas, je cherche à anticiper, alors qu'avant c'était pas le cas, avant je me disais, ah bah ça doit pas être si dur que ça. Et tu vois, moi, je me souviens de. Je disais à ma copine, quand je montais ma première boîte, je disais, mais tu sais, cette boîte, dans 1 an, elle peut valoir 10 millions. Mais tu sais, je voyais pas ce qu'elle allait m'amener à mener une boîte de 10 millions. Maintenant, je me dis, pour que ma boîte, elle vale. Enfin, ma boîte, quand je dis de façon perso, mais notre boîte, mais je veux dire, pour que la boîte dans laquelle je suis vale 10 millions.
Tu vois ce qui arrive un peu après dans le chemin, quoi.
Ouais, je vois les étapes, tu vois. Avant, j'imaginais même pas. Et c'est pareil, à un moment, je me souviens, on était 7. On était 3, pardon, Chamiel, on est passé à 7. Et je m'étais dit, on a trop d'activités, il faut recruter, et j'ai juste recruté, tu vois. Et ça, c'est pareil, dans ma tête, tu recrutes une boîte, et je me disais, si, en fait, en gros, dans ma tête, je me disais, on est 3, si on veut faire tant de chiffre d'affaires par mois, il faut faire x2, et si on veut faire x4, il faut faire x4 en recrutement, tu vois. Et j'avais pas compris qu'il fallait
structurer. Ça fait partie des erreurs que tu peux... Et ça, même, c'est des erreurs que tu peux même pas anticiper, en fait. C'est une fois que tu les as faites, ouais. Tu sais que sur la prochaine boîte, tu les feras pas.
C'est ça, exactement. Et maintenant, même sur les prochains recrutements, je sais qu'il faut que je me méfie. Et ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est vraiment ça, je ne savais pas. Je pensais, qu'en fait, que mon expérience passée était, était, comment dire, était...
Suffisante C'était un bagage suffisant.
En fait, comment expliquer
Vas-y.
En gros, que mon expérience passée était révélatrice de mon expérience future.
D'accord.
Je pensais que ce que j'avais vécu avant, ça allait être la même chose plus tard, mais juste avec plus d'intensité. Alors que non, en fait, ton rôle, il change complètement. Ton rôle, ta façon de faire, ta façon de procéder, elle doit changer complètement. Et ça, je n'imaginais pas. Un autre truc, c'est je pensais pas que je le kifferais autant, franchement.
Ouais.
J'aime bien souvent dire l'entrepreneuriat, ce que je fais, c'est sans doute le truc le plus dur que je puisse faire, mais je pourrais,
pas. Ce qui te plaît plus, tu pourrais pas faire autre chose.
Ouais, c'est l'enfer, mais je pourrais pas être. Je voudrais pas être à un autre endroit, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire que je le dis souvent aux entrepreneurs qui sont, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte comme vous allez souffrir, en fait. Vous allez vous faire défoncer la gueule. Il y a des moments où ça va être incroyable, mais la plupart du temps, ça va être dur, ça va vraiment être dur. Et si vous kiffez pas où vous êtes, vous tiendrez pas. Et c'est le truc le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je me suis jamais aussi senti bien quand je me lève le matin.
Et t'as plus envie de faire autre chose, on l'imagine bien.
Non, je me vois même pas faire autre chose. Alors peut-être que dans un an, deux ans, j'aurai envie de faire autre chose. Peut-être que d'un point de vue perso, il y a des choses qui vont pas matcher, ou peut-être que je vais kiffer encore plus. On sait pas. Maintenant, je sais que je sais pas. Je peux pas dire à quelqu'un, je sais ce que je veux pour Germinal dans 5 ans, ce que je veux pour Germinal.
T'essayes même plus de faire celui qui sait, en fait. Ça sert à rien.
Voilà, exactement. Non, mais je sais ce que je veux pour Germinal. Mais tu vois, et je le dis parfois aux gens de l'équipe, je leur dis, mais peut-être que demain, il faudra trouver un autre CEO. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais aucun problème à laisser la main à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu sais pas si tu seras toujours la bonne personne. Et ta mission, c'est pour le groupe de dire le jour où je suis plus la bonne personne, soit parce que je suis pas au niveau, soit parce que c'est pas mes aspirations, soit parce qu'il y a un non-fit avec l'équipe, soit bah, tu dois laisser la place.
Ok, en gros, t'en es hyper conscient et même sur ça, t'es hyper objectif.
Ouais, ah mais moi, ça m'arrive souvent de dire, mais si demain vous trouvez un CEO qui peut le faire à ma place, allez-y quoi. S'il est meilleur que moi, franchement, moi je me mettrais. Tu vois, il y a des choses où je fais beaucoup de production, il y a des choses où je suis bon. Mm-hmm. Moi, demain, je suis prêt à renoncer à cette place, tu vois.
Pour la boîte.
Sauf que aujourd'hui, je sais que c'est moi la meilleure personne pour le faire, mais j'ai déjà dit à des gens, je le répète dans ce podcast, du coup, moi, si demain il y a quelqu'un qui est meilleur que moi et qui peut emmener le groupe plus loin, je lui laisserai ma place sans.
T'es hyper réaliste, mais t'es aussi hyper confiant, on va dire, sûr de toi.
Oui, je suis sûr de moi, mais je sais que peut-être qu'un jour je serai limité. Et tu sais jamais quand t'es limité. C'est quand t'es limité que tu le découvres. Moi, j'ai fait beaucoup de sport à un bon niveau.
Et ouais, t'as fait quoi ?
Tu trouves tes limites. Il y a un jour où tu te rends compte que, bah oui, t'es remplaçant, mais c'est normal en fait. Parce que le mec qui est sur le terrain, il est meilleur que toi. Et même si tu t'entraînes 6 fois par semaine, même si tu mets toute la rage, tu mets tout ce que t'as, bah le mec qui est sur le terrain, il mérite plus que toi.
Individuel ou collectif ? Du coup, c'était collectif, c'était un sport collectif.
Ouais, okay. Ouais, mais de toute façon, si tu. Tu sais, quand tu montes une boîte, faut vouloir faire gagner l'équipe. Si c'est toi qui veux gagner, je ferais pas ça. Si je voulais gagner, on lèverait des fonds.
Ah non, mais c'était le but de ma question.
Tu lèves, tu recrutes, machin, et dans 3 ans. Enfin, alors, je dis pas que lever des fonds, ce soit une façon d'être individuel. Attention. Ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon cas, je sais que tu vois, on t'arrive, t'envoies du rêve à un investisseur, tu lèves de l'argent, tu sais que t'es pas trop rentable, machin, t'envoies du rêve. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a une bulle. Aujourd'hui, si t'as un peu de traction, tu peux lever de l'argent. Tu vois. Enfin, peut-être, une fois de plus, je connais pas très bien le monde de la levée de fonds et je parle à beaucoup d'investisseurs, etc., mais c'est pas un truc que je maîtrise parfaitement. Donc, peut-être que je me fais une fausse image. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je monte la boîte qui, pour moi, c'est la meilleure façon de monter la boîte pour le groupe.
Et avec les gens qui te suivent, en fait. Pour les gens qui te suivent.
Et si je pensais à moi, il y a des choses que je ferais différemment. Mais en fait, si tu penses à toi dans un groupe, il y a un moment où ça ne matche plus. Et tu vois, moi, j'ai fait que des sports collectifs dans ma vie. Et j'ai toujours kiffé les sports collectifs. Et j'ai fait le seul sport individuel que j'ai fait, c'est de l'ultra-endurance. Pour aller un peu chercher mes limites, tu vois.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, je suis pas là-dedans. Moi, j'ai le sentiment d'être dans le collectif. Okay. Après voilà, je dis ça, peut-être que dans 2 ans j'aurais changé, peut-être que c'est pas la vie que les gens ont autour de moi, peut-être que c'est au contraire c'est leur avis. S'ils sont là, c'est qu'ils doivent quand même, ils doivent quand même être assainis avec moi. Mais voilà, j'ai pas la prétention de savoir ce qui va se passer ou qui je suis ou ce qui va se passer plus tard. Mais en tout cas, j'ai quelques idées, quelques convictions et je te les ai présentées quoi.
Et bah écoute, super cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit, un point, quelque chose?
Moi. Si j'avais un truc que je veux dire aux gens, c'est un peu bizarre, mais si aujourd'hui vous kiffez pas votre taf, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, dites-vous que c'est pas normal en fait. Moi, je vois énormément de gens autour de moi qui considèrent que c'est normal de pas kiffer son taf. Et moi, je kiffais pas mon taf, tu vois. Quand je bossais chez McDo pour payer mes études, etc. J'ai kiffé bosser à Coworking Jordan, mais j'ai kiffé comme je pouvais, j'aurais jamais pu imaginer. C'était incroyable et je pense que j'ai presque autant kiffé que maintenant. Et à un moment, je suis arrivé aux limites et j'ai changé de taf et j'ai re-kiffé, tu vois. Et peut-être que demain, moi, mon kiff, dans 10 ans, ce sera des freelances, peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, et les gens qui sont dans ma équipe, moi, je leur dis, bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est stressant, bien sûr qu'il y a des moments où on n'a plus envie d'être là, bien sûr qu'il y a des matins, on sève, on n'a pas envie d'y aller. Mais si vous kiffez pas, votre taf et si vous êtes blasé et si c'est tous les jours vous vous levez avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et moi, c'est un message que j'aimerais bien faire passer parce que j'ai l'impression que les gens l'ont pas forcément intégré. Et c'est pareil, moi, parfois, je vois des fondateurs, je vois des CEO, des fondateurs, des cofondateurs dans des boîtes qui souffrent vraiment. Je leur dis, mais peut-être juste, c'est pas fait pour toi. Trouve ce qui est fait pour toi, quoi. Moi, j'ai trouvé ce qui était fait pour moi. Je sais pas si la boîte, elle va grossir et ce sera toujours fait pour moi. Mais moi, j'ai bien galéré, j'ai essayé plein de choses et j'ai trouvé ce qui fonctionnait. J'ai créé ma place, tu vois. Et voilà.
Bah écoute, c'est un super beau message. En plus, c'est la première fois qu'on a un message de ce genre à la fin du podcast, tu vois. Alors qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode, je demande justement s'il y a quelque chose à rajouter, s'il y a un message à faire passer. Et c'est la première fois qu'on a celui-ci. Hyper beau, hyper cool.
Voilà, mais en tout cas, je dis juste aux gens, n'ayez pas envie d'être CEO d'une boîte, parce que ce serait peut-être la pire chose qui pourrait vous arriver. Et moi, à un moment, je me suis dit que j'adorerais être freelance, et quand j'ai été freelance, j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Et mes cofondateurs, par exemple, ils m'ont dit, mais mec, on aimerait tellement pas être à ta place. Et moi, j'aimerais tellement pas être à la leur.
Parce qu'ils connaissent et que tu connais aussi la réalité du terrain et vice-versa.
C'est ça. Et je vous dis, CEO, c'est des responsabilités, c'est des trucs cool et c'est des trucs moins cool. Et voilà. Et à la fin, peut-être qu'on est fait pour être cofondateur, peut-être qu'on est fait pour être CEO, peut-être qu'on est fait pour être freelance et peut-être qu'on est fait pour être youtubeur, pour être salarié dans une grosse boîte, dans une petite boîte.
Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut expérimenter. C'est qu'il faut expérimenter et de ne pas avoir peur d'expérimenter.
Ouais, exactement. Il faut tester des choses. Moi, j'ai testé plein de trucs. Au début, je pensais jamais que je pourrais être CEO. Si vous discutez avec des mecs qui m'ont connu il y a 3-4 ans, je leur parlais. Enfin, c'était vraiment pas. Et même au début, je voulais pas être CEO de Germinal. Au début, on avait discuté avec Paco et Benjamin et c'était pas moi qui devais être CEO.
Ok.
Parce que je disais non, je me sens pas, je pense que c'est pas pour moi, je pense que je serais pas heureux là-dedans, etc. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera plus le cas et je devrais essayer de me placer quelqu'un d'autre. Ou peut-être que dans 10 ans, je serai toujours là. Mais voilà. Et c'est pour ça que souvent, je dis nous parce que je pense à Germinal et. Voilà.
Ok, bon, en tout cas Grégoire, merci beaucoup de t'être confié et d'avoir raconté tout ça, c'était hyper cool. Je pense que t'as plus rien à rajouter, tous les points sont bons, tous les points sont sur les i.
Non, c'est plutôt bon là.
Ok, alors si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager partout où vous avez la communauté, à qui serait susceptible d'être intéressé. Allez retrouver Grégoire sur son LinkedIn, du coup Grégoire Gambato, et Germinal sur germinal.io, c'est bien ça?
C'est ça, exactement.
Voilà, retrouvez ToStep sur ToStep.fr, sur Facebook, surtout avec ce qui va bientôt arriver d'ici un petit mois. Merci encore à toi, Grégoire, d'avoir accepté l'invitation et à vous d'avoir écouté l'épisode. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un épisode suivant. Merci à vous. Au revoir.
Salut.